Ça me fait un peu drôle parce que ça fait un peu one man show quand même. Hein, Alors, ce qu'on va faire pour ce temps de message, j'aimerais que ça soit interactif et qu'on n'ait pas beaucoup, donc on va en profiter. Alors, soyez attentifs parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait du répondant et j'aimerais qu'il y ait un partage. Vous savez, la parole de Dieu, soit il y a une prédication, soit on la met au milieu et puis il y a une interaction de chacun. Chacun, voilà un peu ce que cette parole me dit, voilà ce que je relève, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que je vois. Hein. Et j'aimerais qu'il n'y ait pas de honte aujourd'hui à partager, à dire, et n'ayez pas peur même de, pourquoi pas, de se tromper, c'est pas grave, mais qu'il y ait un répondant par rapport à la parole. Et j'aimerais qu'on prenne le texte, c'est le texte d'Ésaïe 9, versets 1 à 7. Ésaïe 9, versets 1 à 7. On va le lire lentement. C'est le texte, bien sûr, approprié à la saison qu'on vit. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et c'est là le verset important. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce texte qu'on pose au milieu ce matin, au milieu de nous, un texte d'Ésaïe, donc bien avant la naissance de Jésus, un texte qui prophétise, qui annonce prophétiquement la venue de cet enfant. Et j'aimerais qu'on. La première verset qui dit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On veut déjà s'arrêter là. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors, qu'est-ce qui touche? Qu'est-ce qui interpelle dans ce verset-là? D'après vous, qu'est-ce qui vous touche? S'il vous touche, j'espère, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On s'arrête dessus. C'est un peu bizarre comme verset, je trouve. Hein? C'est un peu bizarre, David. Donc, Louis, c'est super, un don, une semence. Dieu a l'habitude de semer. Et il a semé un enfant, d'accord? Et ces semences portent du fruit. Merci, David. D'autres choses? On reste sur ce premier pour l'instant. Ah, enfant et fils. Ouais. Merci Marie-Christine. C'est les deux mots, enfant et fils, sont très importants dans la Bible. Et tout le christianisme, toute la marche avec Dieu consiste à devenir enfant déjà, et ensuite pas en rester là, mais passer du stade d'enfant à fils. Et il nous est dit que Dieu nous est donné. Il nous a donné un enfant. et un fils. Et je pense que ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Il nous est donné en tant qu'enfants pour qu'on devienne nous-mêmes enfants. Et il nous est donné en tant que fils pour qu'on devienne nous-mêmes des fils. Donc on va voir ce que ça veut dire hein, tout à l'heure. Voilà. D'autres choses par rapport à ce premier verset-là. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ouais. C'est, ça m'a touché aussi. C'est le « nous » qui est bizarre. Il revient le « nous », la répétition du « nous ». Il nous est né, il nous est donné. On aurait très bien pu mettre « un enfant est né », voyez ?« Un fils est donné », voyez ? Mais là, c'est « il nous est donné ». Il y a l'accent sur c'est nous, la communauté. Ce n'est pas moi d'ailleurs, c'est nous. Et la Bible est un livre du nous, un autre père. Ce n'est pas mon père, notre père, nous. Donc c'est vraiment intéressant ça, le nous. Moi aussi, le fait qu'il soit répété là, ça nous parle. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin, mais juste par rapport à juste quelques mots. Vous savez, il y a un Alsacien du 14e siècle. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un vieux monsieur. C'est un monsieur qui s'appelait Jean Toller. 1300-1361, Strasbourgeois. Il a été élève d'un maître réputé de toute la vallée du Rhin. Il y a eu une sorte de réveil dans la vallée du Rhin. Et des grands hommes de lettres, des grands amoureux de Dieu, on l'appelait la mystique rhénane. C'était des gens comme Maître Eckhart, par exemple. Il y avait vraiment tout ce courant de la vallée était très, très riche. Et ce Jean Toller, il a parlé sur ce verset. Je me suis intéressé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a pu dire sur ce verset hein ? Un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il intitule ça « Concevoir le Verbe ». Et voilà ce qu'il dit, je cite. Hein, donc c'est la terre d'Alsace qui parle des siècles avant. Ce texte nous fait penser à la toute aimable naissance qui tous les jours, à chaque instant, doit se réaliser et se réalise en chaque âme bonne et sainte, si elle veut bien y demeurer, lui donner une amoureuse attention. Dans cette naissance, Dieu nous devient tellement nôtre, il se donne à nous en telle propriété que personne n'a jamais eu une si intime possession. Il est nôtre, cet enfant, tout à fait nôtre, nôtre plus que tout autre bien. Il naît à chaque instant et sans cesse en nous. Car c'est de cette naissance que nous voulons parler. Et ensuite, il va parler de deux mouvements. Pour ce verbe qui s'est fait chair, il dit, voilà, il y a un mouvement de recueillement qui est important. Comme ce fils, cet enfant qui est venu dans une étable, il y a besoin d'être recueilli pour recevoir cette parole, ce verbe fait chair. Et en même temps, il y a un mouvement de sortir de soi. Donc regardez le premier mouvement. Voilà ce qu'il dit. C'est vraiment étonnant. Hein. C'est un langage qu'on n'a pas tellement l'habitude. C'est un langage qui date. Mais en même temps, il y a une profondeur biblique intéressante. Si comme une mère, l'homme veut concevoir en lui le verbe, donc Jésus, d'une façon spirituelle, il doit rentrer en lui-même par le recueillement et puis en sortir. Mais comment ? Il nous faut nous recueillir fortement, ramener, rassembler intérieurement toutes nos facultés, les rappeler de toute dispersion à la concentration qui rend plus puissantes toutes les choses unifiées. Si un tireur veut atteindre sûrement son but, regardez la belle image, qu'est-ce qu'il fait le tireur ? Il ferme un œil pour que l'autre vise plus juste. Celui qui veut comprendre une chose à fond y emploie tous ses sens, les ramène à son centre de l'âme d'où ils sont sortis. De même que tous les rameaux viennent du tronc de l'arbre, ainsi toutes nos facultés, celles de la sensibilité, le désir, aussi bien que l'action, sont unies aux facultés supérieures dans le fond de l'âme. Rentrer en nous-mêmes, se recueillir, c'est faire que toutes nos facultés, elles soient centrées sur un seul objectif, qui est la vision de Jésus. Vous voyez, on est tellement distrait, on est dans une culture de distraction, hein, de musique, il y a beaucoup de bruit. Et bien là, il nous invite au recueillement. Il nous invite aussi à sortir de soi. Hein. Il dit, si nous voulons maintenant sortir de nous, bien plus, si nous voulons nous élever en dehors, au-dessus de nous-mêmes, nous devons alors renoncer à tout vouloir, désir, agir propre. Il ne doit rester en nous qu'une simple et pure recherche de Dieu. Donc le temps de Noël, pour Jean Tolère, c'est le temps de recherche de Dieu. Hein. Recherche de Dieu, sans désirer d'avoir quelque chose en propre, ou en quelque manière que ce soit, sans aucun désir d'être, de devenir ou d'obtenir quelque chose qui nous soit propre. N'ayons que la seule volonté d'être à Dieu, de lui faire place de la façon la plus élevée. L'étable qui a accueilli Jésus, les aubergistes qui ne l'ont pas voulu, nous parlent de la nécessité de lui donner une place, nous. Voyez, lui donner une place, nous. Et pour cela, pour qu'il vienne en nous, Jean Tolère nous dit l'importance de se vider un peu de notre volonté propre, de notre, voyez, de toutes nos idées propres. Se vider un peu pour que lui, il vienne prendre la place. N'ayons que la seule volonté d'être à Dieu, de lui faire place de façon la plus élevée, la plus intime, pour qu'il puisse accomplir son œuvre et naître en nous. Est-ce qu'il y a de la place dans l'étable de notre cœur? Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce que notre cœur n'est pas plein déjà de plein de choses? Parfois, il peut être plein de souffrances, et au lieu de la porter à Dieu, on la garde pour nous, et du coup, il n'y a plus de place pour son amour. Et Dieu voudrait qu'on lui donne ce qui est dans notre cœur pour faire de la place, pour qu'il puisse prendre la place. Je continue. En effet, pour que deux êtres puissent n'en faire qu'un, il faut que l'un se comporte comme patient et l'autre comme agent. Pour que l'œil puisse percevoir les images qui sont sur ce mur ou tout autre objet, il doit n'avoir en lui aucune autre image. N'eût-il même qu'une image d'une couleur quelconque, jamais il ne pourra en percevoir d'autres. De même, l'oreille, qui est pleine d'un bruit, ne peut en percevoir un autre. Ainsi donc, si l'on veut recevoir, il faut être pur, net et vide. Si on veut recevoir, il faut faire un peu la place. Il faut donner nos fardeaux. Il faut donner ce qui nous pèse. Et il cite saint Augustin. Écoutez ça, c'est vraiment phénoménal. Cet homme-là, que je vais citer, donc il est du 4e siècle. La pensée, il a aimé le Seigneur de toute sa pensée, ce gars-là. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Et sa pensée, la pensée chrétienne, a influencé tout le Moyen-Âge. C'est un adorateur. Pas seulement un adorateur par le chant, mais c'est un adorateur par les mots, par la pensée, par le raisonnement. Et le Seigneur Jésus nous dit en ce temps de Noël, « Aime-moi de toute ta pensée. » Et voilà ce qu'il cite de saint Augustin. « Vis de toi pour pouvoir être rempli. Sors afin de pouvoir entrer. » Et plus loin, il dit, « Ô toi, âme noble, noble créature, pourquoi cherches-tu en dehors de toi ce qui est en toi, tout entier, de la façon la plus vraie, la plus manifeste? Et puisque tu participes à la nature divine, que t'importent les créatures? Et qu'as-tu donc à faire avec elles ?» Donc voyez, si l'homme prépare ainsi la place au fond de lui-même, Dieu sans aucun doute la remplira, tout entier. Hein? Et je termine par cette citation, « Fais silence, dit Jean Tolère, fais silence. » Et le Verbe, le Logos, Jésus, hein, de cette naissance en toi sera prononcé et tu pourras l'entendre. Jésus, il vit en nous. Il est l'espérance de la gloire. Il est le Verbe, il parle. Et quand on fait silence, on peut l'entendre. Et en cette période de Noël, peut-être apprenons à faire un peu plus silence pour mieux l'entendre, lui, voyez. Ainsi, c'est en écoutant et en se taisant que l'on va au-devant du Verbe. Sors de toi-même et il entrera. Plus tu sors, plus il entre. Alors maintenant, autre chose moi que j'ai retenu, je pense qu'il n'a peut-être pas été souligné. Jésus est venu en tant qu'enfant pour que nous on devienne enfants à notre tour. Et si on réfléchit bien, qu'est-ce que c'est le christianisme? On pourrait donner beaucoup de définitions. Hein. C'est quoi être chrétien, au fond? C'est quoi être chrétien? Eh bien, un des plus grands théologien évangélique, il s'appelait M. Packer, il dit ceci: qu'est-ce qu'être chrétien? Cette question peut trouver bien des réponses. Et je suis sûr que dans nos têtes, là, on a plusieurs réponses qui viennent. Hein. Être chrétien, c'est ça, c'est ça. Mais la réponse la plus riche que je connaisse, dit-il, c'est qu'un chrétien est quelqu'un qui a Dieu comme père. Voilà. Voilà la définition du chrétien. Avoir Dieu comme père. En d'autres termes, on est appelé à vivre dans une famille. Voyez ? Et là, on a le cœur. Jésus qui est venu enfant, qui est venu fils donc, fils du Père, et il nous a fait connaître ce Père. Le privilège le plus élevé que nous avons en tant que chrétiens, c'est d'être fils d'un Père. C'est ça. Et c'est ça qui fait la différence avec toute religion. Je pense par exemple les philosophies bouddhistes ou autres, vous êtes fils de rien du tout. Vous êtes une sorte de vapeur. Hein, qui est appelé à se fondre dans l'univers. Tu n'es rien. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de relation. Voyez. Et c'est, tout le monde, c'est un engouement aujourd'hui pour ces philosophies. Hein. Oui. Oui, c'est ça. C'est un humanisme. Hein. C'est nous qui choisissons. La vie est en nous, la vérité est en nous. Hein. Le bouddhisme, un peu, c'est ça. L'islam, Dieu n'est pas un père. Le mot islam veut dire soumission. Tu as à te taire et à faire ce qu'il te dit, point barre. Il n'y a aucune place pour la réflexion. Il n'y a aucune place pour la réponse d'amour. Le seul mot important, c'est soumission. Le mot qui caractérise le chrétien, ce n'est pas la soumission. Bien que ça soit important, mais ce n'est pas ça le mot qui caractérise la vie du chrétien. C'est d'être un enfant qui est enfant de son père. Vous voyez ? Oui ? Oui, oui, c'est juste, merci. L'islam qui dit Dieu n'a pas de fils. Oui, oui. C'est intéressant ça aussi. Ouais. C'est absolument. C'est définitivement pas le même Dieu. Hein. Oui. Le Dieu qui n'a pas de fils. Oui, oui, il se présente comme ça. Merci, oui, oui. C'est intéressant hein, et c'est révélateur. Hein. Donc, voyez, le don de la filiation de Dieu, être enfant, ce n'est pas un don de naissance. Hein. Je ne sais pas si tout le monde est bien au clair là-dessus. Hein. Tout homme n'est pas enfant de Dieu. Tout homme est à l'image de Dieu. Mais tout homme n'est pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut passer par cette nouvelle naissance. Jean 1, à tous ceux qui ont cru en Jésus, à tous ceux qui ont reçu cette lumière qu'est Jésus, il leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, donc c'est ceux qui croient en Jésus. Et là, on devient enfant. On devient enfant. Donc vous voyez, avoir Dieu comme père, marcher comme fils et fille, c'est ça que c'est, quand il est dit, il nous est donné un enfant. Il nous a été donné en tant qu'enfant pour qu'on devienne nous-mêmes enfants. D'accord ? Ensuite, la réponse de Dieu, ce n'est pas seulement un enfant qui est donné. Hein. C'est impressionnant, les plus grands problèmes de l'humanité. Dieu, il aurait pu très bien arriver dans une colère monstre. Il aurait pu très bien amener un Jésus en gloire, vainqueur sur tous ses ennemis, bouté hors de l'Israël, les Romains. Et puis non, il a choisi un enfant. Les plus grandes forces de Dieu, c'est toujours dans des petites choses qui apparaissent misérables, faibles. Et la Bible dit que Dieu choisit les choses faibles. Alors si tu te sens faible aujourd'hui, eh bien, tu te dis, ben voilà, j'ai un bon point, quoi. Je suis dans les critères de Dieu. Parce que Dieu choisit les choses faibles, pas pour qu'elles restent faibles, mais il se plaît à les prendre faibles pour se déverser en elles, et pour faire de nous non seulement des enfants, mais des fils. Et donc, rappelez-vous, être fils, Luc 3, le peuple qui se faisait baptiser, hein, Jésus se fait baptiser, il entend cette voix qui dit « Tu es mon fils ». Impressionnant. Cette histoire d'enfant et de fils, c'est toute la Bible que ça traverse. « Tu es mon fils, bien-aimé, entre qui j'ai mis mon affection ». Et plus loin, il est dit, alors ça c'est impressionnant, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, comme on le croyait, il était, regardez, comment est décrit Jésus ? On aurait pu dire, bon, on va le décrire, Jésus, il était en gloire, un merveilleux enfant, on sentait la sagesse, la puissance en lui, on sentait une présence de Dieu quand on l'approchait. Non, pas du tout. Regardez comment il est dit. Jésus avait 30 ans, il commença son ministère, il était fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, et j'en passe, hein, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jabed, fils de Boz, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils d'Enoch, etc. Et on arrive à fils d'Adam, fils de Dieu. Et moi, quand on lit ce genre de verset dans la Bible, on a tendance à sauter, à se dire, mais c'est pas intéressant, on va aller au bout, quoi. C'est un truc judaïsant, c'est un truc... Mais chaque fois que vous entendez fils de, ça honore la famille, ça honore la paternité et ça honore l'importance d'être enfant. Voyez, donc Jésus, fils de Dieu. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, la réponse de Dieu aux problèmes, à toutes sortes de problèmes, c'est toujours la fondation d'une famille. Dieu fonde des familles pour sauver le monde. On parle de la sainte famille, mais pas seulement. Chaque famille est sainte. Et fonder une famille aujourd'hui est le plus grand acte de courage et de résistance et de et plus grand acte prophétique qu'on puisse faire de nos jours. Fonder une famille, faire alliance avec un conjoint, avoir des enfants. Les familles chrétiennes, c'est pour ça que les familles sont tellement attaquées. Parce que dès qu'on parle de famille, on parle d'un plan de Dieu, de restauration. Chaque fois, Dieu, il envoie un fils, une fille, voyez. Maintenant, bon, comme a dit Marie-Christine, passer du stade d'enfant au stade de fils. Rappelez-vous, pourquoi c'est si important de ne pas rester enfant et de devenir fils ? C'est quoi l'enjeu ? Les enjeux, ça peut être quoi, d'après vous ? Hein ? L'héritage. C'est bien, Isabelle. L'héritage. Vous voyez d'autres choses ? Oui. Oui, la viande. Hein, la Bible dit, c'est pas seulement le lait, mais il y a de la viande dans la parole de Dieu. Manger du steak. Hein ? L'héritage, Galates 4, hein. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier. Et je crois que là, on comprend pourquoi il y a tellement d'attaques sur la famille. Il y en a un qui ne veut pas qu'il y ait des fils. Vous savez qu'un des plus grands problèmes aujourd'hui dans nos sociétés, par exemple le problème de violence, sont souvent des problèmes de carence de paternité, carence d'affection. Hein ? La carence d'affection provoque le sentiment de révolte et de rébellion, hein, et de violence du coup. Et on en veut. On en veut à la société, on en veut à son père. Moi, lorsque Dieu m'a touché dans mon cœur, quand je me rappelle de ça, au début je trouvais que c'était anodin. Mais plus j'y réfléchis, moins je trouve que c'est anodin. La première conviction de péché que j'ai eue, c'était par rapport à mon père. Donc mon père était un marin de la marine nationale. Et moi, à la période ado, j'étais un baba cool. Et comme tout baba cool, on est peace and love et on est anti-militariste. Et anti-militariste, ça veut dire l'armée, c'est des fachos. D'accord ? Donc, ma transposition, papa, facho. Et j'avais composé des chants sur mon père comme facho, fasciste. Vous voyez ? Voilà. Voilà. C'est pas été édité. Heureusement, hein, heureusement, c'était de la mauvaise musique en plus, je pense. Eh bien, lorsque Dieu m'a touché par son amour, la première chose qui m'a touché, c'est « va demander pardon à ton père ». Et pourtant, j'en avais fait d'autres, hein, des bêtises, hein, et celle-là, c'est une des moindres. Mais ce pardon que j'ai dû demander à mon père, c'était le premier. Et quand je réalise... Parce que Dieu voulait que je sois fils. Et on ne peut pas être fils et fille quand on en veut à son père ou à sa mère. Et la période de Noël, quand il dit un fils nous est né, un enfant nous est donné, j'aimerais qu'on puisse dire où est-ce qu'on en est avec nos pères et nos mères. Là, il y en a qui vont dire, mais moi, mon père, il n'est plus là, il est mort, ou ma mère, elle n'est plus là, elle est loin. Mais c'est pas, l'attachement est pareil. Hein. La haine qu'on a pu avoir ou le mépris, eh bien, nous empêche de recevoir la paternité de Dieu. Donc devenir fils, c'est d'abord accepter de pouvoir dire Abba Père. La plus grande révélation dans la Bible, je crois, c'est que nous, on puisse dire à Dieu, qui a fait les cieux et la terre, lui dire Abba Père. Je crois qu'il n'y a rien de plus grand que ça. Je crois que c'est là, on est quelque chose de fondamental. Et je termine, lorsque dans Colossiens, il est dit « Rendez grâce au Père » qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Le Fils, et on l'a lu tout à l'heure, il a plusieurs titres. Et on va les voir et j'aimerais vos réponses aussi par rapport à ça. Par exemple, il y a plusieurs titres, ils sont par deux. Je sais pas si vous avez, dans nos traductions, parfois on ne le voit pas bien. Le premier couple, c'est « Il est merveilleux conseiller ». Merveilleux conseiller. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire, ça? Jésus, on l'appellera merveilleux conseiller. Parce que, vous voyez, la traduction ici, admirable conseiller, en fait, c'est deux mots rapprochés. C'est admirable conseiller, c'est un couple. Hein? Là, on ne le voit pas comme couple. Donc, merveilleux conseiller, admirable conseiller. Qu'est-ce que ça vous suggère, ça? Pardon? On peut trouver en lui toutes les réponses qu'on cherche. Oui? Oui? C'est le côté merveilleux, au-delà du compréhensible. Hein? Oui, autre chose? Merveilleux. Merveilleux. Ça vous rappelle pas une histoire, ça, dans la Bible, merveilleux? Je crois que c'est les parents de dans le livre des juges. C'est les parents de Samson, je crois. Il y a un moment, le père a une vision. Manoah, qui s'appelait, je crois. Il a une vision d'un ange. Et il lui demande son nom. Et l'ange lui dit, ne cherche pas mon nom. Il est merveilleux. C'est bizarre comme réponse. Hein. Cherche pas mon nom, il est merveilleux. On pense qu'il s'agit de Jésus. Et Jésus merveilleux, ce n'est pas seulement dans Isaïe, on le voit dans d'autres passages des Écritures. Il est merveilleux. Au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, définir, il est plus que ça. Et quand il est merveilleux, il nous émerveille. Maintenant, moi je me pose la question, quelle est la dernière fois, je ne vous demande pas de répondre, hein, mais dans notre cœur, quelle est la dernière fois où l'on a été émerveillé par Jésus? Franchement, hein, réfléchissez à ça. La dernière fois où Jésus m'a émerveillé, c'est ça ce nom de merveilleux. Et si on a du mal à répondre, eh bien, le Seigneur voudrait se révéler ce matin en tant que merveilleux à toi. Il voudrait que tu t'émerveilles de nouveau. Voyez? C'est conseiller, merveilleux conseiller. Les conseillers, c'était qui à l'époque, dans la tradition biblique, les conseillers? On les trouve où? Aux portes des villes. Et puis, les conseillers. Dans les cours des rois. Les rois étaient entourés de conseillers. Daniel était un conseiller. On les prenait parmi les sages. Ils devaient savoir interpréter les rêves, les visions. C'est un peu bizarre à notre époque. Hein. Imaginez François Hollande avec un sage à côté. Il a un rêve nocturne. Il dit, qu'est-ce que t'en déduis? Pire encore, c'était quoi mon rêve? Et c'était quoi l'interprétation? Ça, c'est l'onction prophétique. L'onction prophétique, les conseillers, c'était des sages qui maniait le côté prophétique avec le côté sagesse de Dieu, qui est vraiment la personne de Dieu lui-même. Il est le seul sage. Et cette sagesse, elle nous est donnée au travers de Jésus. Hein? Jésus est venu pas seulement pour te sauver, pas seulement pour te pardonner, mais il est venu pour te communiquer ce qu'il est et ce qu'il a. Et il est sagesse. Il a été fait pour toi, sagesse. Donc merveilleux conseiller, c'est ça. Ça nous parle du conseil auprès des rois. Ça nous parle du règne. Nous sommes appelés tous à régner. Donc c'est un peu Jésus, c'est le nouveau Salomon, si vous voulez, le grand conseiller, C majuscule. Ensuite, Dieu fort ou Dieu puissant, en hébreu c'est El Gibor, hein, puissant. Et ça, c'est celui qui est devant Israël, qui terrasse les ennemis. Et je cite Ésaïe 10, juste quelques versets plus loin. « En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, il reviendra au Dieu puissant, El Gibor. » Et là, c'est pareil. Quelle est la dernière fois où on a expérimenté Dieu puissant, hein? Dieu qui tout d'un coup brise des obstacles qu'on croyait insurmontables. Et ça c'est Dieu aussi. Et ça c'est Jésus. Et Jésus va être appelé puissant. Jésus, qui était enfant, va être appelé puissant. Apocalypse, je suis l'alpha, l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, le tout puissant. Hein? Jésus lui-même s'appelle comme ça. Apocalypse 1:8, Apocalypse 17, ils combattront contre l'agneau, l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, vaincront aussi. Et Apocalypse 19, extraordinaire vision, qui parle de Jésus tout-puissant. Je vis le ciel ouvert, dit Jean, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice, ses yeux étaient comme des flammes de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je rappelle que ce jugement, c'est par rapport à toutes ces puissances des ténèbres. Hein, donc voilà, ça c'est Jésus. Hein. C'est étonnant le contraste. Il est né enfant. Il est devenu fils, et en tant que fils, héritier du cosmos tout entier. Et son héritage, comme on l'a chanté tout à l'heure, il reviendra le prendre. Il dit, c'est à moi. Et son église, que nous sommes appelés à être sa main, ses yeux, ses bras, ses pieds, pour fouler son héritage. Père à jamais, maintenant. Il est père à jamais. Donc, Ésaïe 9. Alors, cette paternité, père à jamais, qu'est-ce que ça... On en a déjà un peu parlé, hein, mais est-ce que ça vous dit autre chose? C'est étonnant, ça, comme titre royal, hein, pour un enfant. Tu seras appelé père éternel. On n'est pas dans une culture qui valorise la paternité. Donc, pour nous, ce n'est pas un titre royal. Un titre royal, c'est puissant, c'est fort, c'est majestueux. Voyez, mais père, ça fait drôle. Réfléchissez un peu. Père éternel. Et c'est pourtant un titre royal. Voilà. Les pères qui sont dans cette salle, vous avez un petit P. C'est pas le grand P, mais c'est quand même quelque chose. Hein. Moi, je suis grand père. C'est pas mal déjà. Mais c'est grand petit G. Et P, petit P. Mais le père éternel, c'est un titre royal. Ça, c'est beau. Et on termine, prince de la paix. Ça, c'est de nouveau Salomon. La paix durant son règne. Le règne de Salomon était caractérisé par la paix. Qu'est-ce que ça nous dit, la paix, en ce temps de Noël? Ça vous dit rien? Les bergers, les visions qu'ils ont eues, Où est-ce qu'il est question de paix? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? La période de Noël. Qu'est-ce qu'ils chantent les anges? Vous vous rappelez? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà, c'est ça. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il agrée. Hein? Et plus loin, dans Jean, Jésus qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. » Et Jean 16, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. On peut la chercher partout, on ne la trouvera pas. Mais Jésus, il est le prince de la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et chaque fois que Jésus venait quelque part, il disait la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Dans ces temps de troubles qui empêchent la moitié des Français de dormir bien, je pense que la paix, c'est vraiment un des plus grands cadeaux que Dieu veut nous donner, qu'il nous a donné. Et la période de Noël, c'est pas seulement célébrer quelque chose de passé, mais c'est célébrer ce que Dieu est aujourd'hui et veut nous donner aujourd'hui. Il a été fait enfant pour que tu deviennes enfant. Il a été fait fils pour que tu deviennes fils. Il est admirable, conseiller pour te conseiller, te soutenir. Il est prince de paix pour te donner la paix. Il est père à jamais pour faire de toi un enfant qui se sait aimé de son père. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole si riche, pour ce temps de Noël où, qui nous rappelle les choses essentielles. Et comme Jean Tauler le disait, nous voulons faire silence pour entendre le Verbe et nous effacer pour entendre ce que tu dis. Vider nos cœurs de soucis pour te laisser toi le remplir avec ta paix, avec ton amour. Et Seigneur, que cette paix ce matin s'étende sur tous ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont sur la route aujourd'hui, je pense à la famille Pierre-Élien, ceux qui sont à l'hôpital, comme Romain, comme la maman de Valérie aussi, pour ceux qui sont malades, qui luttent. Seigneur, merci pour ta paix et ta guérison. Et que la paix de Dieu soit sur chacun de nous maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Eh bien, c'est sympa l'interaction, là, de temps en temps. Hein, voilà. Il faudrait faire ça plus souvent, je pense. Il faudrait qu'on fasse ça plus souvent. Même si on est nombreux, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, n'oubliez pas, pour ceux de l'Église, les dîmes et les offrandes. Il y a les boîtes qui sont là-bas. Merci pour votre fidélité dans ces dîmes et offrandes. Je n'aurais pas oublié d'autres choses, annonces ou autres. Le culte, dimanche prochain. Je rappelle aussi que Pierre Kranga sera... il fait les formations à l'ISP. Il fait 2 semaines. S'il y en a au milieu de vous qui seraient disponibles, qui peuvent prendre un temps, je vous encourage. Il va décortiquer la parabole de Luc 15. 1 semaine sur Luc 15. J'ai eu un mail d'une équipe de jeunes du Sud-Ouest qui l'a reçu. Ils m'ont dit que ça a transformé leur vie. J'ai eu mail avant-hier. C'est un message au niveau de l'identité, j'en connais pas de meilleur. J'en connais pas de meilleur. Il y a d'excellentes semaines avec Pierre-Daniel Martin sur le prophétique. Mais cette semaine avec Pierre, sur l'amour du Père, si vraiment vous pouvez l'apprendre, eh bien, c'est avec Vito Pascasio qu'il faut s'inscrire. N'hésitez pas. Ce n'est pas la première semaine après les vacances, c'est celle d'après. Voilà, passez une bonne après-midi. Et pensez à moi pour les 10 jours qui viennent aussi. Et puis on se retrouve en 100 ans. Voilà. Un bonjour à tout le monde, tous ceux que vous avez laissés. Et puis, bon après-midi. Attention sur la route.